avons essayé de comprendre dans ce premier semestre comment Saint Thomas assumait toute la tradition, spécialement Boès, par rapport à ce qu'est pour lui la personne. Donc il y a là toute une étude de la pensée de Saint Thomas, du commentaire des sentences à la somme théologique, qui est très importante à bien saisir. Il est évident que le thème de la personne est capital chez Saint Thomas. Et au fond, Saint Thomas se trouve en face de la difficulté qu'Aristote, sans employer le terme personne, avait compris, le lien entre la nature et l'esprit. Et on peut dire que c'est cela qui est la grosse difficulté au point de vue théologique. La grosse difficulté, le problème de la personne. Nous avons une nature humaine. Par notre nature humaine, nous sommes tous liés aux uns aux autres. Nous avons la même nature. Et nous sommes des êtres individuels et des êtres personnels. Par notre esprit, nous avons une finalité qui n'est pas celle de la nature humaine. La nature humaine n'a qu'une finalité commune. La finalité du cheval, du chien, et la finalité de chaque homme, et la finalité de la nature humaine. La finalité d'un animal, c'est de survivre. Donc, la génération demeure le sommet de l'individu. Et l'individu est en vue de l'espèce et pour la nature. Alors que quand il s'agit de l'homme, à cause de l'esprit, la nature est pour l'esprit. Et donc il ne s'agit plus d'une finalité qui est au service de l'espèce. Il s'agit de découvrir une finalité qui est propre à l'esprit. L'amitié, la contemplation. Et c'est ce qui caractérise justement l'homme comparativement à ce que représentent les animaux. Et au plan théologique, ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il est lié à la communauté humaine par la nature, alors que l'ange est un être singulier, sans nature commune, et qui fait l'ange, fait la bête. On voit très bien ce que ça veut dire. La nature humaine, le problème de la personne, si vous voulez, se situe de cette manière. Au fond, c'est le problème de l'homme, de la personne. Il est entre l'aspect l'animal. Alors la nature, l'espèce, finalise chaque individu, chaque animal est finalisé par la survie de l'espèce. Tandis que quand il s'agit de l'homme, il y a en lui l'esprit qui dépasse sa nature humaine. Et quand il s'agit de l'ange, j'allais dire, est totalement personnel, puisque c'est l'esprit substantiel. C'est très curieux que chez l'ange, vous voyez, la personne a un principe propre. Tandis que pour l'homme, la personne au sens strict n'a pas de principe propre. Je crois que ça c'est très important, essayer de saisir ça. La personne donne une finalité. C'est par la finalité que je caractérise la personne. Un être humain qui n'est pas finalisé n'est pas une personne. Il est un individu. C'est par la finalité. La finalité permet à la personne humaine de découvrir ce qu'elle est. La personne humaine, atteignant sa finalité, découvre son autonomie de personne. Mais il n'y a pas de principe particulier. Tous les principes sont donnés dans la nature humaine et dans l'espèce. C'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Oui. Je ne définis pas la personne par l'intelligence, je ne définis pas la personne par la volonté. Tandis que je vois que la volonté et l'intelligence sont enracinées dans la nature humaine. La nature humaine implique une âme spirituelle qui est intelligence et volonté. Et c'est l'âme spirituelle qui fait le lien. Qui fait le lien entre la nature et la personne. Et l'âme spirituelle implique intelligence et volonté. Et l'âme spirituelle impliquant intelligence et volonté a des principes propres, ceux de l'intelligence et de la volonté. Mais la personne comme telle n'a pas de principes propres. C'est une manière particulière d'atteindre sa finalité. Je suis une personne dans la mesure où j'atteins ma finalité. Et c'est par là que j'ai une autonomie au-delà des exigences de ma nature humaine. Tandis que pour l'ange, la personne est spécifique. Chaque individu est une personne. Et donc la personne est spécifique. Ouais, c'est là la grosse question, et qui est très intéressante au point de vue théologique. Est-ce que la personne humaine est spécifique? Ou est-ce que seul chez l'ange, la personne est spécifique? Alors, poussez jusqu'au bout et vous mettrez Dieu ou terre. Pour avoir le mystère de la très sainte Trinité. Le théologien s'occupe de la personne jusqu'en Dieu dans le mystère de la très sainte Trinité. Voyez, le théologien a le souci de montrer que la personne humaine est unique à l'homme. L'animal n'a pas de personne. L'animal a une nature spécifique qui se réalise en chaque individu et qui fait que l'individu est finalisé par la nature. L'homme a une nature spécifique. Et chaque individu, grâce à son âme spirituelle, qui fait partie de sa nature, a une fin personnelle. Et l'ange a une personne spécifique. C'est pour ça que je dirais que chez l'homme, la personne est du côté de la finalité. Je ne peux pas découvrir un principe propre, spécificateur de la personne. Posez-vous la question, c'est intéressant. Et si vous trouvez une solution, vous me le direz. Pouvez-vous découvrir un principe propre qui caractérise la personne humaine? Ce qui permettrait, au point de vue philosophique, de dire qu'il y a une partie de la philosophie qui regarde la personne humaine. Est-ce que la personne humaine exige de moi d'avoir une partie de la philosophie qui regarde l'homme? Ou au contraire, l'aspect spécifique Je sais pas si vous voyez bien le problème. Parce que ça, c'est très important. Ça résume un peu tout ce que nous avons dit. Et je le résume d'une autre manière pour que vous compreniez mieux. C'est-à-dire pour que vous soyez obligé de tout repenser. Et voir si vous avez compris quelque chose. Et lorsqu'il s'agit de Dieu, la personne n'est ni spécifique, ni finalisée. C'est une relation. Vous avez donc trois aspects de la personne. Personne humaine, personne angélique, personne divine. Et il y a quelque chose de commun, cependant, à ces trois types de personnes. Mais vous avez trois personnes différentes. Et je crois qu'on pourrait dire comme ça. La personne humaine, c'est le tout finalisé. La personne angélique, elle est spécifique. Et la personne divine n'est ni spécifique, ni finalisée. Les trois personnes divines ont la même spécificité. Elles sont une. Ont la même finalité. Elles sont une. Le Père n'est pas plus finalisé que le Fils, et le Fils n'est pas plus finalisé que le Père. Et le Fils ne finalise pas le Père. Le Père est finalisé sans le Fils. Donc la personne ne finalise pas. La personne ne spécifie pas. La personne maintient en Dieu une distinction relative. Et c'est la relation qui fait la distinction. Vous avez donc trois types de personnes. Très intéressant de voir ça. Alors qu'est-ce qui fait ce commun de ces trois types de personnes? Quelle est la ratio personnée qui unit les trois? C'est pas commun d'avoir. La raison de personne qui se trouve dans la personne du Père. Dans la personne angélique, il n'y a pas de Père chez les anges. Ils sont sans père, les anges. Curieux. Ils sont des contemplatifs purs, sans paternité. Mais, alors qui fait l'ange fait la bête, hein, c'est curieux. C'est vrai, c'est pur contemplatif. Sans paternité. Et dans l'homme, on retrouve la paternité. On retrouve le point de vue de la paternité. L'homme est père. Et il est père dans sa personne. C'est une des finalités de l'homme d'être père. C'est pas la seule. L'homme peut être contemplatif. Mais peut-être père. L'amour d'amitié, la contemplation. Deux finalités différentes. Donc il tient à Dieu, il tient à l'ange. Il y a quelque chose de particulier dans l'homme. C'est que sa personne peut être père. Sa personne peut être contemplatif. La personne, paternité et la contemplation. La sagesse. La sagesse contemplative par où il touche l'ange. C'est très curieux. Alors, qu'est-ce qui va être la ratio personnée? Vous ne pouvez pas définir la raison de la personne par la finalité. Parce que c'est pas juste. Vous n'allez pas dire la personne, c'est celle qui est finalisée. Mais Dieu alors? Vous ne pouvez pas définir la personne uniquement par le point de vue de la spécificité. Ça n'existe pas dans l'homme. Ni en Dieu. Vous ne pouvez pas définir la personne par la relation. Hein? Alors vous allez définir la personne comme? Qu'est-ce qu'il y a de comme dans ces trois types de personnes? La personne dans la très sainte Trinité, la relation substantielle, la personne dans l'ange, la personne dans l'homme. Et posez le problème de cette manière, parce que ça c'est très intéressant. Et vous avez là trois types de personnes différentes que vous pouvez essayer de décrire. Qu'est-ce qu'il y a de comme dans ces trois types de personnes? Qu'est-ce qu'il y a de comme? Je vous laisse, hein, je vous le dis pas. ça sur un petit papier, ce qui aura découvert la ratio personae. Faut bien, puisque les trois sont personnes. Le père est personne. L'ange est personne. Et chacun d'entre nous, nous sommes une personne. Plus ou moins bien réussie. Mais nous sommes une personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a la ratio commune? Ah, je vous demande pas de le dire tout de suite, non, réfléchissez avant. Vous m'écrirez ça sur un petit papier. Un petit papier doux. La ratio personnelle, c'est ça. C'est très important de saisir ça. Parce que tant que vous ne l'avez pas saisi, vous n'avez pas compris. C'est de rester hein, trois échelons. Vous n'avez pas saisi ce que c'était que la personne. Vous comprenez que pour saisir la ratio personnelle, je vous mets sur la piste. Il faut saisir le lien entre l'être et la vie. C'est peut-être ça en dernier lieu qui fait comprendre ce que c'est que la personne. Je vois des visages qui s'illuminent parce qu'ils ont découvert. La personne est-elle définie par le point de vue métaphysique de l'être? Est-elle définie par la vie? Ou est-elle définie par la vie et l'être? Est-ce que c'est la personne, c'est la vie qui rejoint l'être? La vie est au niveau de la nature. Et l'esprit est au niveau de l'être. Et la personne applique nature et esprit. Alors, est-ce qu'il y a ça? Ça, ce serait très intéressant de bien comprendre ça. C'est qu'en définitive, la ratio personnée va-t-elle se préciser uniquement du point de vue de l'être, au niveau métaphysique, au niveau de la vie, impliquant les deux? Puis-je définir la personne sans faire allusion à la vie? En regardant uniquement au niveau être, suis-je obligé de montrer que la personne implique être et vie? Alors vous allez me dire être, vie, esprit. Alors est-ce que la ratio personnée va être l'unité de l'être et de l'esprit, passant par la vie? Sans expliciter nécessairement la vie, en explicitant l'être et l'esprit. Posez-vous la question. Hein. Je voudrais que vous puissiez, vous-même, découvrir ce que c'est que la ratio personnée. C'est un très très beau problème. Bon. Ceci, c'est du saint Thomas. Saint Thomas nous donne les trois. La recherche de saint Thomas, ça a été ça, pour essayer de préciser ce que c'était que la personne dans la très sainte Trinité. La personne chez les anges et la personne chez l'homme. Et la non-personne chez l'animal. Je vais regarder maintenant, très rapidement avec vous, les modernes. Parce que le problème de la personne se pose avec beaucoup d'acuité. Depuis un certain temps. Alors, je ne dis pas que c'est exhaustif, ce que je vous dirai là, mais j'essaie de saisir les différents aspects. Parce que je crois qu'il y a là quelque chose de très important pour nous à saisir. C'est un problème très actuel. C'est un problème très actuel, ce problème de la personne. Et donc, il faut essayer de le saisir le mieux possible. Et ceci a pris une dimension très très nette chez les modernes, on peut dire. C'est pour ça que certains considèrent que le problème de la personne prendre toute sa signification chez les modernes. Et au point de vue psychologique. Le psychologue voudrait définir la personne. Il faut se poser la question, le psychologue peut-il définir la personne? Ça fait partie des questions qu'on doit se poser. Est-ce que la psychologie contemporaine peut peux définir ce que c'est que la personne? Ou est-ce que je suis obligé de faire appel à la philosophie pour définir ce que c'est que la personne? Et pourquoi? C'est intéressant parce que c'est... Si la psychologie ne peut pas me dire ce que c'est que la personne, vous comprenez très bien que tout de suite, je vois la fragilité très grande de la psychologie. Alors, chez les modernes, et dans cette perspective, nous essaierons de comprendre le livre du Saint-Père, Personne et Actes. Je demande au frère Samuel, qui l'a étudié spécialement, de faire un petit exposé là-dessus. C'est bon, puisqu'on ne peut pas demander au Saint-Père de venir l'exposer. On demandera à celui qui a étudié, puisque c'est le problème du pape. Ça, je crois. C'est sûrement un des problèmes qui est l'axe de la pensée du pape. Quand il parle de l'homme, c'est la personne. C'est tout le temps la personne. Alors c'est important de voir parmi les modernes, et par rapport à saint Thomas, parce que le Saint-Père voudrait faire la synthèse des modernes et de saint Thomas. Ça c'est sûr. C'est son désir. Alors, peut-on le faire? Peut-on pas le faire? Comment pouvons-nous le faire? Oui, alors regardons d'abord cette pensée tout à fait actuelle. Il faudrait regarder le problème de la personne chez Husserl. La personne est le moi pur. Husserl dit ceci dans les Ideen. Bien que la psychologie et les sciences de l'esprit soit atteinte par la mise hors circuit, il y a une phénoménologie de l'homme, de sa personnalité, de ses propriétés personnelles et de son courant de conscience en tant qu'homme. Donc la phénoménologie veut regarder la personne. Et il précise que la conscience se présente sous différents modes d'appréhension et sous différents rapports, jouant à l'intérieur de la phénoménologie elle-même. La conscience, en effet, se présente une première fois en elle-même comme une conscience absolue, une seconde fois dans son corps et là, en tant que conscience psychologique, laquelle est désormais insérée dans le monde naturel. Elle est transmutée d'une certaine façon et pourtant n'est pas dépouillée de son propre statut en tant que conscience. Mouvement dialectique de la conscience. Pouvons-nous identifier personne et conscience? De très graves problèmes qui ont été suscités aujourd'hui. C'est intéressant que c'est posé par Husserl. En effet, dans la perspective phénoménologique de Husserl, l'homme pris comme être naturel et comme personne liée aux autres par un lien personnel, celui de la société, est mis hors circuit, ainsi que tout être animé. Mais qu'en est-il du moi pur? La réduction phénoménologique fait-elle également du moi phénoménologique qui découvre les choses du néant transcendantal? Ce qui est clair, c'est que le moi pur n'est pas un vécu parmi d'autres, que la permanence n'est pas celle d'un vécu qui s'entête stupidement. Il semble être un élément nécessaire. L'identité absolue qu'il conserve à travers tous les changements réels et possibles des vécus ne permet pas de le considérer en aucun sens comme une partie ou un moment réel des vécus même. Autrement dit, en langage kantien, le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Ainsi, la mise hors circuit du monde et de la subjectivité empirique qui s'y rattache, laisse pour résidu un bois pur, différent par principe avec chaque flux du vécu. Et donc, avec lui, se présente une transcendance originale, non constituée, une transcendance au sein de l'immanence, l'immanence du vécu, transcendance que l'on n'aura pas le droit de mettre hors circuit à cause de son rôle essentiel. C'est très curieux comme recherche, et c'est très intéressant d'une certaine manière. Dans les méditations cartésiennes, 1931, la personne entendue au sens le plus large du terme est définie par Husserl à partir des habitus qui déterminent le moi. Alors je vous cite ce passage. Le moi permanent lui-même, pôle des déterminations permanentes du moi, n'est pas un état vécu, ni une continuité d'état vécu, bien qu'il se rapporte par de telles déterminations habituelles au courant des états vécus. Tout en se constituant soi-même comme un substrat identique de ses propriétés permanentes, le moi se constitue ultérieurement comme un moi-personne permanente, au sens le plus large de ce terme, qui nous autorise à parler de personnalité inférieure à l'homme. Et même si, en général, les convictions ne sont que relativement permanentes, le moi, au milieu de ces transformations, garde un style constant, un caractère personnel. Donc vous voyez, cette recherche, c'est d'essayer de comprendre ce qui demeure à travers le vécu successif. Nous avons des états vécus multiples. Il y a quelque chose qui demeure, quelque chose qui est au-delà du vécu. Et cet au-delà du vécu, c'est le moi permanent, c'est sûr. Et ce moi permanent sera d'une certaine manière la personne. Et même si en général les considérations ne sont que relativement permanentes, le moi, au milieu de ces transformations, garde un style constant, un caractère personnel. La personne, c'est donc ce moi permanent au-delà de la succession. Et cependant, ce moi permanent demeure dans la succession et il ne peut pas exister en dehors du vécu. Ce qui vient actuer ce moi permanent. Le vécu qui vient actuer le moi permanent. De ce moi, pôle identique et substrat des habitus, Husserl distingue l'ego pris dans sa plénitude concrète, qu'il désigne du terme de Leibniz de monade, en adjoignant au moi-pôle ce sans quoi il ne saurait exister concrètement. Il ne saurait notamment être un moi autrement que dans le courant multiforme de sa vie intentionnelle et des objets visés par elle. Le ego monadique concret contient l'ensemble de la vie consciente, réelle et potentielle, ce qui m'est spécifiquement propre à moi, ego, c'est mon être concret en qualité de monade, puis la sphère formée par l'intentionnalité de mon être propre. On peut donc dire que pour Husserl, le moi personne permanent n'est pas un état vécu, mais demeure au milieu du courant multiforme de la vie intentionnelle et implique comme fondement le moi monade, l'ego monadique existant concrètement. Et c'est très curieux, parce que c'est une reprise du sujet scolastique, de la substance. On a évacué la substance, elle revient avec la personne. Il y a quelque chose qui demeure. Vous savez bien la définition de la substance chez Platon, la déesse qui demeure à la maison. Il y a quelque chose qui demeure au-delà de la variété de tout le vécu intentionnel. Ce quelque chose qui demeure, c'est cet ego monadique qui me donne mon unité. Hier, je me suis endormi. Ce matin, je me suis réveillé. Est-ce que c'est le même moi monadique? J'ai pris mon petit déjeuner, je travaille. Est-ce que c'est le même moi monadique? Il y a quelque chose qui demeure au-delà du vécu. Et cependant, le vécu fait partie de ce moi monadique. Il ne pourrait pas exister sans lui. J'ai un vécu inconscient, j'ai un vécu conscient, j'ai un vécu plus ou moins fort. Je ne peux pas le séparer. Et c'est là où on voit très bien combien la méthode phénoménologique est quelque chose qui empêche de saisir vraiment la personne. Puisque je suis dans l'intentionnalité. Et que la personne, de fait, ne peut pas s'effiter par l'intentionnalité. Alors c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que vous, ils se sont heurtés vers quelque chose qui dépasse. Et je crois que ça a été la pierre de touche par rapport à ceux qui n'ont pas accepté la phénoménologie d'une façon absolue. Puisque la phénoménologie se définit par l'intentionnalité du vécu. Or, il y a quelque chose qui résiste à l'intentionnalité du vécu. Quelque chose qui demeure, qu'on ne peut pas nier. Cet ego monadique, vous l'appelez n'importe comment, donc ça m'est égal. Cet ego pur, le fondement de la personne. Je ne dis pas que c'est la personne. C'est le fondement de la personne. La personne ne peut pas se séparer de l'intentionnalité vécue. Qui vient actuer ce fondement. Ce fondement, lui, est au-delà. Il est neutre par rapport à ça. Et cependant, il ne peut pas se séparer de lui. Donc, voyez, cette espèce d'essai de préciser quelque chose de fondamental, nous dirions, de substantiel. Et en même temps, toujours le point de vue de l'acte. Substance et acte. À côté de Husserl, il faut mettre quelque chose d'extrait, il faut mettre quelqu'un qui a joué un rôle très important, point de vue du problème de la personne, Max Scheler. On s'approche du Saint-Père. Husserl est plus lointain, mais quoique, il est proche, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Oui, je crois que pour Husserl, on peut dire personne est le moi pur. Il ne faut pas les identifier. Hein. Mais la personne implique le moi pur. Et la personne implique quelque chose de plus que le moi pur. Que le moi transcendant. Dans le formalisme en éthique et l'éthique matérielle, des valeurs qui se présentent explicitement comme un nouvel essai de personnalisme. Max Scheler affirme « On n'a jamais le droit de penser la personne comme une chose. » Alors là, c'est le grand homme. C'est le grand homme moderne. Il ne faut jamais oublier l'opposition farouche entre personne et chose. Vous traitez comme une chose. C'est anti-personne. C'est intéressant de toujours de saisir les aspects dialectiques de la pensée moderne, puisque la pensée moderne pense toujours dialectiquement. Alors il faut retrouver le nœud de la pensée dialectique moderne. Si vous voulez entrer dedans, Une fois que vous avez saisi ce nœud, vous pouvez voir si c'est juste ou pas juste. Vous comprenez? Chose, hein? Chose, la chose. Il n'y a rien de plus vague. Chose traduit res. Un rôle capital dans Avicenne, à tel point que Rès est devenu un transcendantal. Et c'est intéressant de voir ces choses-là. C'est devenu un transcendantal. Saint Thomas l'a assumé parmi les transcendantaux. Rès. Et ça, c'est directement Avicenne. C'est pas Aristote. Rès.
Continuez de décrire et vous n'entrez pas dedans.
voyez, c'est ça qui est très curieux, et c'est ça qui est très intéressant à noter. C'est que la division, c'est une division, l'opposition entre personne et chose, l'opposition entre être et être en soi. Dans la pensée dialectique, vous savez, bon, être, non-être, la pensée dialectique hegelienne, devenir, la synthèse, vous avez donc une opposition, la division. La division est l'âme de la dialectique. S'il n'y a plus de division, il n'y a plus de dialectique. Et la division fondamentale, c'est être et non-être, ou non-être et être. C'est plus juste de mettre non-être et être. Plus juste. C'est le non-être et l'être, puisque la négation est antérieure à l'être, dans la pensée dialectique. Donc c'est la division. Et à partir de la division, vous avez la synthèse. Dans la pensée analogique, vous avez division des modes. Et vous avez la synthèse, qui est la ratio. Le tikkoinon. Qui n'est pas une synthèse. Il faut tout de suite dire ça. Vous avez la division des modes. Donc vous retrouvez les trois termes. C'est ça qui est très curieux. Mais vous avez la différence entre les deux. C'est que d'un côté vous faites la synthèse et de l'autre côté au contraire vous creusez. Vous essayez de saisir l'au-delà de la division. Alors on pourrait dire que la synthèse, c'est l'au-delà de la division. C'est vrai. Le devenir est un au-delà de l'être et du non-être. Mais un au-delà immanent. Alors que la ratio est un au-delà transcendant. Mais c'est vraiment la division qui fait quelque chose de commun entre la pensée dialectique et la pensée analogique. Mais une division qui oppose permettant la synthèse et une division qui oppose, comme toujours division, permettant la découverte de quelque chose de transcendant. Alors c'est là où il faut comprendre toute la différence de ces deux divisions. Une qui reste quantitative, c'est-à-dire qui reste dans l'immanence, permettant la synthèse, et l'autre n'étant plus dans l'immanence, permettant la transcendance. Autrement dit, il y a une division quantitative ou dans l'immanence qui conduit à la synthèse. Et vous avez une division au-delà de l'aspect quantitatif qui est d'ordre qualitatif et qui conduit à la transcendance. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre au niveau critique. Parce que dans n'importe quelle hauteur, vous trouverez des divisions. Quelle est la division, si vous voulez comprendre Aristote, quelle est la division fondamentale d'Aristote? Posez-vous la question. Quelle est la division fondamentale dans Aristote? Est-ce que c'est nature-forme, nature-matière, une division? Nature-forme, nature-fin, nature-efficient. Est-ce que c'est substance et accident? Est-ce que être en acte et être en puissance? Oui. Vous avez donc toute une série de divisions qui s'imposent et ne s'engendrent pas mutuellement. Mais vous avez ces divisions. Vous avez l'âme et le corps. C'est une division, l'âme et le corps. Et la synthèse, c'est le vivant. Alors vous voyez, vous pourriez donc dire la pensée dialectique, puisque vous avez une synthèse vivant. Vous êtes partie du vivant qui est dans tout. Et vous avez analysé l'âme et le corps. Vous avez divisé. La découverte des causes, c'est une certaine division. Donc là, je vous mets sur la piste. Parce que c'est comme ça, je crois qu'on doit travailler. Si on veut travailler avec intelligence, quand on lit un auteur, saisissez les divisions de cet auteur et essayez de comprendre si ces divisions sont des divisions analogiques ou des divisions dialectiques. Ce sont toujours des divisions. Sont-elles analogiques? Sont-elles dialectiques? et le droit de penser la personne comme une chose ou comme une substance qui posséderait des pouvoirs ou des puissances quelconques, parmi lesquelles se trouverait, entre autres, un pouvoir ou une puissance rationnelle. En réalité, la personne est l'une.